Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
Les larmes, c'est tout à fait, c'est sous-évalué, c'est méprisé, c'est...
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude, éloge de la communauté et les origines des larmes. C'est tout de suite avec nos deux invités, Fatima Wassak et Jean-Paul Dubois. Bonne écoute.
La première.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
Tête chercheuse, poésie heureuse. Ça va peut-être vous étonner, mais ce sont les premiers mots qui me viennent à l'esprit quand il s'agit d'évoquer les librairies indépendantes. Vous y entrez sur la pointe des pieds et déjà vous êtes attrapé par l'odeur du papier. Vous y flânez, vous jetez un œil sur les nouveautés. Vous remarquez ces livres dont vous avez entendu parler, d'autres qui viennent titiller votre curiosité. On parie que vous repartirez avec sous le bras ce que vous n'aviez pas envisagé, pas imaginé. C'est qu'en déambulant, vous allez tomber sur ces post-it en forme de cœur collés sur la couverture de certains livres, des petits mots écrits à la main. Oui, à la main, comme aux temps anciens. Peut-être que vous allez échanger avec la libraire, elle vous connaît et elle a forcément mis de côté pour vous un livre inoubliable. Ah, c'est la première fois que vous venez ? Alors dites-lui juste quelques mots à propos de vous et de vos goûts, laissez-lui quelques minutes. Est-elle une tête chercheuse ? Elle vous rendra heureuse. Dans tous les cas, elle vous emmènera là où vous ne vous y attendiez pas. Et ici, ça n'est pas un processus algorithmique, mais du magique. Pas de l'automatique, mais du poétique. Mais oui, tête chercheuse, poésie heureuse. Cette poésie puisée dans les livres, celle qui détrempe les cœurs embués, énergétise les corps fatigués, fait éclore les nouveaux départs, régénère une langue affaiblie par des logiques qui amoindrissent. Ouvrez les yeux, vous n'êtes peut-être qu'à quelques pas de tout ça. Il suffit de pousser la porte d'une librairie indépendante pour y accéder. Et pourquoi pas aujourd'hui ? Parce que ce samedi, c'est la fête des librairies indépendantes. Oh là là, poésie. Plus qu'heureuse.
Dans quel monde on vit ?
Et qu'est-ce que nos invités attendent des librairies indépendantes ? Je vais leur demander, mais avant, je vous les présente bien sûr avec nous. Fatima Wassak, vous êtes née en 1976 au Maroc. Vous êtes politologue, essayiste, autrice de La puissance des mers et de Pour une écologie pirate. Et vous signez un premier récit qui s'intitule Rue du passage et qui raconte la vie de la classe ouvrière immigrée en France dans les années 80. Nous allons en parler. Jean-Paul Dubois, vous êtes né, vous, en 1950 à Toulouse, en France. C'est depuis là, d'ailleurs, que vous allez parler avec nous aujourd'hui, puisque vous êtes dans les locaux de Radio France à Toulouse. Vous êtes écrivain. En 2019, vous avez reçu le prix Goncourt pour votre livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Et vous revoici près de 5 ans plus tard avec « L'origine des larmes », un roman gorgé d'eau, l'eau, des larmes et celle venue du ciel. Vous y racontez l'histoire d'un homme qui a tué son père, un père pourtant déjà mort. On s'y arrête tout à l'heure. C'est la fête des librairies indépendantes ce samedi 27 avril. Alors, première question en rebond à mes quelques mots d'introduction. Qu'est-ce que vous leur devez, vous, aux librairies indépendantes, en tant qu'auteur-autrice, mais aussi en tant que lecteur-lectrice ? Fatima Wassak, d'abord.
Alors, c'est surtout en tant qu'auteur-autrice, donc plutôt autrice, pour ce qui me concerne, que je leur dois beaucoup. C'est le lieu, les librairies indépendantes, où sont organisées les rencontres autour de mes livres, de très très belles rencontres. Alors effectivement, parce qu'il y a, un engagement, il y a une organisation militante presque, pour des livres qui sont très militants. Alors autrice plus que lectrice, parce que je, comme beaucoup de personnes qui ont grandi dans les quartiers populaires, qui y vivent, c'est difficile quand même, de passer la porte d'une librairie, qu'elle soit indépendante ou pas.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a quelque chose qui est assez impressionnant, imposant, quand on n'est pas de cette culture majoritaire où on a grandi avec des livres à la maison, où on a pris l'habitude d'aller avec les parents en librairie. C'est quand même un lieu qui est très situé sociologiquement, en fait, qui peut être, oui, impressionnant pour des personnes qui ont le sentiment de ne pas être suffisamment légitimes, de ne pas appartenir à la bonne classe sociale. Alors, je sais que beaucoup de libraires font un travail pour essayer de sortir et de rendre leur espace plus inclusif, comme on dit aujourd'hui. Mais ça reste quand même très, très difficile.
Jean-Paul Dubois, vous leur devez quoi, vous, librairies indépendantes ?
Je ne sais pas du tout ce que je leur dois, sans doute beaucoup. Mais j'évite d'aller dans les librairies parce que je suis très mal à l'aise. Je n'y suis allé rarement que pour des raisons professionnelles et ça me met très mal à l'aise de rencontrer les gens qui ont lu les livres.
Ah, pourquoi ?
Qui ont lu mes livres. Parce que c'est une situation et une position qui est complètement déséquilibrée. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont lu souvent beaucoup de vos livres, qui sont chargés de plein de choses, qui ont envie de vous dire énormément de choses, et qui disposent d'un temps infiniment court pour vous le dire, alors qu'il y a 50, 60 ou 100 personnes qui attendent derrière pour échanger avec vous de la même façon. Et c'est totalement artificiel. Et ça me met dans une position, moi, très mal à l'aise, parce que je ne sais jamais quoi dire. Je dis merci, je bafouille comme un imbécile. Et il y a aussi une identification qui se fait entre le lecteur et le type qui écrit le livre, qui est totalement artificielle, qui n'existe pas non plus. Et c'est une situation, moi, qui me met très très mal à l'aise. Je suis plutôt timide et je suis. Mais bon, une librairie, c'est un endroit où vous avez à peu près tout ce qui est possible. Après, c'est à vous de le trouver. Je pense que c'est pas au libraire de le trouver. C'est à vous de faire l'effort. Il faut pas demander. Moi, j'aime pas demander. C'est à vous de faire l'effort de trouver ce que vous voulez. C'est parce que vous l'avez en tête ou vous l'avez en vous. Il faut le chercher.
Jean-Paul Dubois et Fatima Wassak, vous êtes nos invités cette semaine. Coucou Juliette.
Bonjour Pascal.
Vous êtes Juliette Goudeau, journaliste, écrivaine, autrice de lettres aussi de temps en temps. Vous vous adressez à qui cette fois-ci ?
Mais je m'adresse à la flamme olympique, puisqu'elle est sur le chemin, en tout cas, de Paris pour le meilleur et pour le pire, peut-être.
Vous allez donc tenter de mettre un peu le feu, si j'ai bien compris, cette semaine, Juliette, à tout à l'heure, pour En toute lettre, c'est dans une micro-demi-heure. Et s'entraîner, nous jetons un œil au selfie sonore de nos invités, un son en guise d'autoportrait. Voici d'abord le vôtre, Fatima Wassak.
Vous pensez que le général de Gaulle pourrait, en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ?
Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer ? Nous ne sommes pas des équipes de football.
C'est une archive de 1964, c'est Ho Chi Minh qui s'exprime, le président de l'époque du Vietnam. Qu'est-ce qui lie cette intervention à votre vie, Fatima Wassak ?
Je trouve ça vraiment très emblématique de la nécessité de l'humour, y compris pour penser, envisager la question coloniale. Voilà, Ho Chi Minh, c'est quand, je pense, beaucoup d'entre nous y pensent, quelqu'un avec une force dramatique importante. Voilà, c'est la colonisation, c'est aussi les guerres anticolonial, mais vraiment là, l'air de rien, en fait, il renvoie un propos, colonial en réalité, tenu par la journaliste qui place comme ça le général de Gaulle au-dessus de la mêlée, en fait, et l'Occident en réalité comme arbitre, alors que l'Occident a quand même colonisé une grande partie de la Terre et de l'humanité. Et il renvoie ça d'un revers de main, vraiment, en quelques mots comme ça. Et je trouve ça vraiment très touchant, en fait, dans la bouche d'Ho Chi Minh et assez bouleversant. Ça remet de l'humanité, en fait, dans quelque chose qui est quand même très, très dramatique, quoi.
Et en un mot, vous, l'humour vous a sauvé ?
Oui, moi, j'expérimente ça, en fait, dans mon propre engagement et dans mon écriture, une forme de ruse.
La ruse et l'humour, donc, du côté de Fatima Wassak. Et place maintenant à votre selfie sonore, Jean-Paul Dubois. Vous vouliez écouter le bruit de moteur d'une coccinelle, la voiture, donc, hein, et pas l'insecte. Je vous laisse nous expliquer ce choix, Jean-Paul Dubois.
Ben c'est un choix un peu honteux, c'est un choix d'un vieux boomer. C'est ma première voiture, et c'est la voiture avec laquelle j'ai dû faire 3 fois le tour du monde, qui a vu grandir mes enfants, qui ne m'a pas vu vieillir puisque j'étais jeune à l'époque, que j'ai aimé, mais d'un amour qui n'est pas mécanique, qui n'est pas... C'est un membre de la famille, je suis allé partout avec cette voiture, elle m'a amené partout. Et le jour où je l'ai vendue, j'ai fondu en larmes. Je l'ai vendue, un type. J'ai vu la voiture partir et là, j'ai eu le sentiment pour la première fois de ma vie de commettre une mauvaise action. C'est-à-dire que c'est un membre de la famille qui partait. C'est ridicule. Voilà, ça m'a fait plaisir d'entendre ce bruit. Et je pense que c'est réellement une Volkswagen qui est pas loin de celle que j'avais parce qu'il y avait plusieurs moteurs. Je vais pas vous saouler avec ça. Mais c'était pas loin de la mienne.
Et bien voilà, pour vos selfies sonores et nous enchaînons Revenons maintenant avec quelques sonorités de l'actualité. D'abord, Londres qui veut expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda.
Je peux confirmer que nous avons mis des équipes en attente, que nous avons réservé des places dans des vols commerciaux dans certaines périodes et que nous avons 500 personnes bien entraînées et prêtes à escorter les demandeurs d'asile illégaux jusqu'au Rwanda et 300 autres seront prêts dans les prochaines semaines.
Pendant ce temps, au Parlement européen, c'est l'affaiblissement du Green Deal.
Souvenez-vous de 2019, toute cette assemblée a dit « on soutient le pacte vert, on travaille ». En vue de la neutralité climatique, ça c'était les bons vieux jours, c'était l'époque ancienne dans laquelle les conservateurs étaient très clairs aussi, ils disaient oui, il faut des mesures urgentes.
Chez nous, la réforme du décret paysage validée et la majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles cabossée. Et mardi, les profs et directeurs des écoles du nord et du sud du pays manifestaient.
En soi, c'est un très beau métier, on est super motivés, mais... l'enseignement ne tient que grâce à notre motivation et à notre détermination. Sans nous, le système est extrêmement défaillant.
Le mécontentement aussi du côté des factrices et des facteurs.
Les craintes, c'est une perte d'emploi. Le postier belge ne mérite pas ça.
Ils ont mené des actions conséquences. Peu de courriers dans nos boîtes aux lettres ces derniers jours. Jeudi, un accord avec la direction de Bipost a été dégagé. Enfin, il y a tout juste 2 ans, il était notre invité, fichu crabe, le cinéaste Laurent Cantet est décédé.
J'ai l'impression que une des fonctions de l'art, c'est quand même ça, c'est de nous secouer, c'est de nous remettre en question. Et oui.
Laurent Cantet avait 63 ans, il avait décroché la Palme d'Or en 2008 avec son film Entre les Murs, notre dernière conversation avec Laurent Cantet, nous l'avons remise en ligne. Et nous en venons tout naturellement à vos temps forts de l'actualité, qu'est-ce qui vous a marqué en particulier ces derniers jours? Allez tiens, Juliette d'abord.
Oui, mais je vais répéter ce que vous disiez, moi aussi je voulais parler de Laurent Cantet, la mort de ce cinéaste le 25 avril dernier qui était un cinéaste de la société, de la violence sociale, qui était un observateur tendre aussi des liens qui pouvaient se créer,
on se souvient, sensible.
Ouais, de la Palme d'Or bien sûr, avec entre les murs, sur une classe d'élèves réputés difficiles, on se souvient aussi de l'atelier sur des élèves déscolarisés et de la manière dont il avait d'observer les liens qui pouvaient se créer entre les gens. Il devait tourner son prochain film produit par Marie-Ange Luciani qui est la productrice de Justine Triet. Donc voilà, je crois que à quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, quelques semaines, les gens de ce milieu et pas seulement sont assez tristes.
Fatima Wasak.
Alors moi, c'est vraiment l'espoir qui nous vient des États-Unis. Cette jeunesse américaine dans les campus universitaires américains. Contre le génocide à Gaza, pour un cessez-le-feu, pour que ces massacres qui durent quand même 7 mois maintenant arrêtent. Ça, je trouve que, alors autant ce qui se passe en ce moment à Gaza, je pense nous affaiblit tous et toutes vraiment. Et je parle vraiment à l'échelle de l'humanité, c'est vraiment éprouvant en fait. Un tel déni d'humanité et tous les jours et toutes ces images d'enfants morts, etc. Ça, je pense que ça nous... à petit feu, en fait. Je pense que vraiment, ça nous détruit à petit feu. Mais autant, il y a là une respiration, en fait, de voir que cette résistance et le fait que ce soit la jeunesse, en fait, qui refuse ça et qui en appelle à notre humanité, ça, vraiment, en ce moment, moi, ça me permet de souffler un peu.
Voilà. Jean-Paul Dubois, qu'est-ce que vous avez épinglé, vous, de votre côté, dans l'actu de ces derniers jours ?
C'est une petite horreur quotidienne. J'ai vu que Milei, le président d'Argentine, était dans tous les journaux pour avoir réussi à avoir rétabli pendant 3 mois l'économie argentine après avoir supprimé toutes les aides, tous les soutiens, enfin, fermé les universités. Et je voulais simplement rappeler une interview qu'il avait donnée en direct à la télévision argentine, dans laquelle il avait déclaré « L'État est un pédophile qui entre dans une école maternelle avec des enfants enchaînés, menottés et enduits de vaseline ». Voilà quel est le président actuel de l'Argentine qui reçoit les félicitations du FMI et de quelques libéraux pour avoir rétabli 3 mois, ça fait 3 mois, légèrement l'économie argentine. Et le fait que ce type est élu démocratiquement, c'est-à-dire qu'on en est à élire nos propres tyrans, quoi. Il n'est pas le seul, évidemment, mais c'est une figure emblématique de ce monde.
Voilà pour votre regard sur l'actualité de ces derniers jours. Et nous filons vers la rue du Passage, maintenant, avec vous, Fatima Wassak.
Qu'est-ce que vous pensez des jeunes, ici?
Des cons.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bouillons dans le quartier. Si vous savez, le soir, on ne peut plus sortir. Hein.
Pourquoi?
Nous, vous faites attaquer.
Ils ne veulent pas essayer de comprendre les jeunes. Eux, pour eux, c'est tous des délinquants.
Ils cassent tout, ils cassent les vitres, ils cassent tout, alors. C'est un désastre.
Les jeunes cassent, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont comme loisirs ici?
Quand tu vois ces grands bâtiments sans aucune vie...
Tu vois que du béton autour de toi.
Beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'émigrés. Bon, c'est maintenant les cités sont réduites à ça. Hein. Et on les met là-dedans et puis on s'occupe d'eux. On les a casés, ça y est, on a fait notre boulot.
Voilà quelques échos de ce qui se disait à la télé française dans les années 80 à propos des immigrés. Vous, Fatima Wassak, vous nous racontez l'histoire de Salima dans votre nouveau livre. Elle a 5 ans quand nous faisons sa connaissance. Elle vit dans une cité, rue du Passage. Nous sommes dans les années 80. Et comme vous l'écrivez, l'enfant vit dans ce quartier entouré par des murs gigantesques et une communauté d'habitants, tous venus du même endroit, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le monde dans lequel vous avez grandi, en fait, ce que vous décrivez. Pourquoi teniez-vous à transmettre l'histoire de cette rue du Passage, Fatima Wassak? Première question.
Parce que j'aimerais transmettre une histoire joyeuse. Les mots qu'on vient d'entendre, les propos qu'on vient d'entendre, on commence à les connaître. En tout cas, on les connaît de plus en plus et de mieux en mieux.
Et depuis un bout de temps.
Ouais. Et je voulais pas qu'on réduise le propos à cette tragédie, en fait. Ce contexte hostile, ce contexte raciste aussi. Je voulais, en fait, par un petit tour de passe-passe, réhumaniser et réenfantiser, d'une certaine manière, ces enfants qui ont grandi dans les années 80 et qui n'ont pas connu que le racisme, en tout cas, qui ont pu trouver aussi, dans leur quartier, dans leur communauté, de la joie.
De la chaleur humaine.
Oui, de la fierté, comme tout le monde, en fait. Voilà. On n'est pas dans les quartiers populaires privés d'amour, privés d'affection, privés de ces relations, y compris avec des personnages très antipathiques. Hein. Il n'y a pas que des personnages sympas dans le livre. Il y a, par exemple, cette diva, cette doseuse d'épices, qui est très, très antipathique.
On va en reparler. Hein.
Justement, il y a cette subtilité, cette complexité qui manque dans les récits de l'immigration, y compris ceux qui tendent à dénoncer, en fait, le racisme.
Tout au long du récit, vous nous faites découvrir des métiers méconnus. Nous rencontrons un passeur de cassettes notamment, ou comme vous l'avez dit, la doseuse d'épices, des métiers sur lesquels nous allons nous arrêter. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces métiers, ils jettent des ponts entre les deux côtés de la Méditerranée. Et vous insistez à plusieurs reprises pour dire que l'exil, c'est une souffrance. Vous parlez à 2-3 reprises des traumatismes de l'exil. Traumatisme au pluriel, Fatima Wassak.
Oui, c'est pas rien de s'arracher à sa terre, à sa famille, à son peuple, d'en être arraché, d'être déraciné. C'est un traumatisme. Ça dit aussi, je pense, beaucoup de ce besoin de renouer, d'être en lien, en tout cas, avec le pays d'origine, avec la terre d'origine. Et ça produit beaucoup de beauté. La nourriture, par exemple, tout à coup, prend une importance fondamentale. Parce que c'est pas juste manger. C'est pas juste, d'ailleurs, bien manger. Il s'agit aussi de beau manger. Parce que c'est, voilà, la nourriture, c'est le lien avec le grand-père. Laisser là-bas le petit frère, la meilleure amie, etc. Et d'où l'importance de la doseuse d'épices.
Oui, et là, vous allez jusqu'à parler d'une dimension spirituelle à un moment. Effectivement, que cette nourriture, que ce dosage d'épices, il est considéré comme un bienfait spirituel.
Oui, parce que c'est le lien avec la terre, c'est le lien avec une culture, c'est le lien avec une religion aussi, qu'on considère ici, dans le pays d'accueil, avec des grosses guillemets accueil, qu'on considère comme étant une sous-culture, comme étant peu de choses, parfois même on diabolise tout ça. Et donc voilà, il y a une importance en fait à renouer, à être en lien encore une fois avec ce qu'on a laissé là-bas, et notamment oui, avec sa religion, avec sa spiritualité. La doseuse d'épices, elle, voilà, encore une fois, elle n'est pas très agréable, mais elle exerce un métier, elle fait un travail qui est primordial naturelle, parce qu'il s'agit, voilà, d'harmoniser en fait les épices. Voilà, elle se contente de faire ça. Hein. Elle n'épluche pas les oignons. Elle est vraiment là pour la dernière petite touche.
Touche finale.
Il s'agit de faire ce lien avec la terre d'origine et de permettre à cette communauté d'exilés, oui, de renouer par la nourriture avec ce qu'ils sont finalement.
Le mot terre, je crois que vous l'avez déjà utilisé ces dernières minutes, au moins 6-7
oui,
fois.
Voilà, c'est important.
Pourquoi est-ce si capitale, justement, cette question de la terre, des lieux de vie, du territoire ? Elle est centrale au cœur de votre œuvre, que ce soit dans vos essais ou ici, dans ce premier texte littéraire.
Oui, parce qu'il m'apparaît, avec l'écriture aussi, hein, c'est vraiment en écrivant que ça m'apparaît aussi évident, il m'apparaît que ce qui définit le mieux... la singularité des personnes, des populations non blanches, immigrées, musulmanes, qui vivent en Europe, ce qui les définit le mieux, c'est d'être privé de terre, c'est d'être sans terre. Quand on y réfléchit bien, on a affaire à des personnes qui ne sont chez elles ni ici, mais elles ne sont plus chez elles là-bas non plus.
Mais elles vivent quand même ici, au moins dans des petits appartements, non ?
Voilà, très, très exigu.
C'est pas une terre, c'est pas un territoire, ça ?
Pas encore. Moi, j'en appelle en fait à cet ancrage territorial dont on a besoin, parce que le besoin de terre, c'est un besoin qui est universel. Mais ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Il y a tout un processus de désancrage ici qui tend à rappeler à ces personnes-là qu'elles ne sont pas ici chez elles, finalement. Et moi, je pense que c'est ça, le traumatisme, en fait. C'est ça qui nous détruit à petit feu. On ne s'en rend pas forcément compte, mais en y réfléchissant bien, voilà, il y a ce besoin de terre qui est important pour nous aussi, pour ces populations-là aussi. Et donc oui, je pense que ça doit fonder notre projet politique, en fait, pour utiliser des grands mots. En tout cas, ça doit aussi participer à la transmission nécessaire vis-à-vis de nos enfants. Voilà, leur dire, cette terre, c'est la vôtre. Vous ne vous en sortirez pas si vous ne faites pas de cette terre la vôtre, quoi.
Et pour régler, ou tenter en tout cas de régler la question climatique, la terre, c'est aussi un enjeu important pour mobiliser notamment ces immigrés dont vous parlez.
Oui, tout à fait. C'est comment lier la question de la terre et la question de la sous-humanisation des personnes qui l'habitent. Pour pouvoir ravager une terre, le système capitaliste, pardon d'utiliser toutes ces expressions un peu froides, alors que justement j'en appelle à
la chaleur.
Oui, du roman et du récit littéraire, mais appelons un chat un chat. Le système capitaliste pour ravager les terres qu'il ravage le plus, les terres des quartiers populaires ici en Europe, mais la terre du sud global aussi, pour pouvoir ravager cette terre, il a besoin de sous-humaniser les habitants qui habitent cette terre-là pour neutraliser leur résistance. Et donc oui, moi ce que je dis souvent aux écologistes et aux gens de manière plus générale qui se soucient de lutter contre la dévastation de la terre et de la planète, je leur dis, vous ne pouvez pas y couper, il va falloir aussi lutter contre la sous-humanisation de cette humanité qu'on dénigre et qu'on méprise. Donc oui, pour moi les deux sont importantes. La terre et l'égal dignité humaine.
Vous aimez raconter à hauteur d'enfant, c'est le cas dans ce nouveau texte, mais c'était aussi le cas en partie dans votre texte, dans votre essai pour une écologie pirate. J'en prends juste un petit extrait, on est page 137, vous écrivez « Les enfants des quartiers populaires sont en Europe les personnes les plus vulnérabilisées, les plus touchées par les désastres écologiques. C'est donc d'abord de leur point de vue que le monde doit devenir plus respirable et qu'il faut construire le projet écologiste. » Concrètement, qu'est-ce que les enfants, et en particulier les enfants des quartiers populaires, ont à nous enseigner à propos de l'écologie, Fatima Ouassak ?
Déjà, leur expérience de l'emmurement et de la contrainte dans la circulation dans l'espace. On a affaire là des quartiers qui sont les plus bétonnés, les sols les plus artificialisés. Bon, ce sont des quartiers où il y a quand même beaucoup de laideur, beaucoup de pollution atmosphérique déjà à l'époque, hein, beaucoup de pollution visuelle aussi. Et donc il y a cette expérience déjà à laquelle on peut prêter attention et qui peut donc beaucoup nous enseigner. Mais il y a aussi une soif de liberté en fait chez ces enfants-là. Si on les considère comme des sujets politiques, comme des acteurs politiques, il y a une curiosité, il y a un regard aussi sur l'environnement. Il y a justement là où on pourrait, nous, adultes, notamment adultes racisés, voir
Aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, je vois dans ces années 80 beaucoup de racisme, par exemple. Voilà, c'est une époque où on a tué beaucoup de gens en fonction de leur couleur de peau. On a même parlé d'arabicide. Il y a Fausto Guisset, un chercheur aux éditions de la Découverte, écrivait, voilà, il y a eu des arabicides, c'est-à-dire on a tué des gens comme ça pour un vol de mobylette. Et c'est une époque où on pouvait acheter des fusils dans les supermarchés. Hein. C'est une époque horrible, en fait, en ces termes-là. Là où moi, donc, je peux qualifier cette période de dure et d'hostile, je peux parler de racisme structurel. L'enfant que j'étais, en fait, en réalité, a été relativement heureux. Donc ça, je pense que cette curiosité, cet optimisme, cet espoir, en fait, peut nous aider à traverser les moments assez obscurs qu'on vit en ce moment.
Et vous faites l'éloge de la communauté. La communauté a forgé l'enfant. L'amour, la confiance en soi, l'ambition de l'enfant, tout vient de la communauté. C'est ce que vous écrivez. Qu'est-ce que vous lui devez, vous, à la communauté, Fatima Wasak? Tout?
Alors, je lui dois pas tout, j'avoue que j'exagère un tout petit peu quand j'écris ça dans Rue du Passage. Et
c'est presque un manifeste à la fin
voilà,
de votre texte.
Oui, voilà, mais c'est une réaction en réalité. C'est une réaction à des crispations identitaires et à un propos aussi politique, mais culturel et littéraire aussi, qui tend à dénier à ces communautés-là, pas n'importe lesquelles, hein, évidemment, quand il s'agit de communautés bourgeoises, de communautés blanches aussi, on va avoir tendance à valoriser. Là, il s'agit de communautés marginales, en fait, minoritaires, la communauté musulmane, la communauté exilée, immigrée. En fait, à force de nous répéter que ces communautés ne valent rien, qu'elles sont diaboliques, que c'est de la sous-culture aussi, j'avais besoin, moi, de passer par ce roman, ce récit, j'avais besoin de dire la beauté de ces communautés, en fait. Vraiment pour en dégager une forme de fierté et pour résister. Et donc oui, dans des pays où on répète que la communauté immigrée, exilée, musulmane n'a été que problème. Oui, je pense que c'est important, c'est de l'ordre presque d'une responsabilité, encore une fois, politique, culturelle, artistique, que de dire que...
Elle a été quoi alors, cette communauté solution, survie?
Oui, absolument. C'est-à-dire que sans communauté, il me paraît évident que dans ces années-là, en tout cas dans ces années 80, ces exilés qui, oui, ont été traumatisés par le déracinement, ces exilés n'auraient pas survécu. Je veux dire, les enfants n'auraient pas survécu sans leurs parents, sans leurs voisins, sans leurs voisines, sans leurs copains, leurs copines, etc. Et c'est faux que de dire que c'est la nation, l'institution, qui a permis à ces enfants de
s'émanciper. Que la nation arrête de s'inventer des vies, elle n'a existé aux yeux de l'enfant un peu que parce qu'elle a volé les exilés. C'est ce que vous écrivez. On pourrait vous répliquer, mais elle a trouvé du travail, la nation, à ces personnes. Elle leur a trouvé un lieu de vie?
Alors, ça, c'est la version positive de la chose. Non, non, la réalité des faits, et c'est quelque chose qui est documenté, c'est plutôt la nation, précisément le patronat, en fait, qui se déplace en Afrique pour aller y trier les immigrés utiles et les immigrés... Alors, les émigrés, puisqu'on est là-bas, les émigrés utiles et les émigrés qui ne sont pas utiles pour le capital, pour le patronat. Et donc, on les a fait venir ici pour reconstruire la France et on les a placés comme ça dans la métallurgie, dans la sidérurgie, tout au fond des mines. On a construit autour de ces usines et de ces mines voilà, des habitations, ou alors on les a mis comme ça dans les HLM, ces immigrés, et ensuite, donc, dans le cadre du regroupement familial, leur famille. C'était pas du tout pour leur faire plaisir ou pour les émanciper, c'était pour, pardon d'utiliser à nouveau les termes, mais pour exploiter leur force de travail. Et ces immigrés n'auraient pas survécu, justement, aliénés, attachés aux machines, s'ils n'avaient pas eu avec eux, encore une fois, les collègues, les camarades, les enfants, les voisins, les voisines. Je voulais vraiment tordre le cou au patronat, mais aussi à cet enseignant, ce professeur. Alors en France, vraiment, on nous rabat les oreilles avec ce professeur qui débarque dans les quartiers populaires en Seine-Saint-Denis pour tendre
un livre aux élèves, alors un livre de Molière, de Victor Hugo, de Balzac, pour extraire comme ça l'enfant de la classe ouvrière et de cette communauté d'immigrés, pour l'amener comme ça vers les nuées, vers la lumière, vers la philosophie, la littérature, etc. Et on nous vend, voilà, on nous ment en réalité, on nous dit que c'est
ce geste. Parce que ça n'a pas existé ?
Non, ça n'a pas existé, c'est pas vrai. En fait, vraiment, quand on cherche comme ça dans nos mémoires, et en fait, on ne trouve que le lien affectif à notre mère, à notre père. Ce sont nos parents, en réalité, qui nous répétaient, mais il faut réussir à l'école. Si on a traversé les océans, si on s'est sacrifié, nos mères nous ont répété qu'elles nous ont porté 9 mois, allaité 2 ans, etc. Et on ne s'est pas sacrifié pour que vous ayez que 16 sur 20. Voilà, où sont passés les 4 points? Voilà, moi, on m'a répété ça. Et je sais qu'on nous a beaucoup répété ça dans ces communautés d'immigrés. C'est ce qui nous a permis de nous en sortir un peu, pas complètement, parce que nous aussi, on a quand même traversé des années difficiles. Mais ce qui nous a permis de nous en sortir un peu, ce sont ces communautés d'immigrés, oui.
Allez découvrir les réalités de la classe ouvrière immigrée des années 80. Rendez-vous rue du Passage. C'est là que vous nous fixez rendez-vous, Fatima Ouassak. Vous restez avec nous.
La première.
Dans quel monde on vit ? Pascal Claude.
Et c'est toujours fort sympa de vous savoir là dans quel monde on vit, deuxième partie avec nous cette semaine, l'essayiste Fatima Ouassak et l'écrivain Jean-Paul Dubois. Avec vous, Jean-Paul Dubois, nous nous approchons de l'origine des larmes dans quelques minutes. C'est juste après En toutes lettres et c'est donc à vous, Juliette Goudeau.
Chère flamme olympique, pour qui brûlez-vous ? Bien sûr, il y a ces images, indélébiles de vous vacillante, puis grandissant sous la main de Mohamed Ali, tremblant mais toujours the greatest aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Ali que le monde découvrait diminué par la maladie, envoyant des baisers à la foule qui l'acclame, légende de la boxe éclose en Cassius Clay aux Jeux Olympiques de Rome à seulement 18 ans, américain converti à l'islam et contestant la guerre du Vietnam, Mohamed Ali le dernier porteur de flamme, le dernier héros. Derrière lui d'autres images, le poing levé des coureurs afro-américains qu'un médaillé d'or et de bronze aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Tête baissée, poing ganté de noir, symbole du Black Power lorsque retentit l'hymne américain. Un geste qui leur vaut alors l'exclusion de l'équipe américaine et une carrière interdite jusqu'à ce que Barack Obama les réhabilite et que le comité olympique réintègre leur nom 40 ans plus tard. Derrière eux, d'autres images de vous, la flamme, entrant pour la première fois dans le stade olympique de Berlin à l'été 1936 dans l'Allemagne nazie, relayée depuis l'antique site d'Olympie par une torche Krupp, firme spécialisée dans l'industrie d'armement. Mais vous, souveraine, préfigurant pourtant le massacre dans le stade régi par les lois raciales de Nuremberg, vous dont la mémoire subsiste dans Olympia, les dieux du stade, de la cinéaste Leni Riefenstahl, inventant sans morale et au service du Troisième Reich, l'un des plus beaux travelling du cinéma, anéanti en quelques foulées gracieuses par Jesse Owens, coureur noir américain qui remporta 4 médailles d'or à la barbe du Führer. Vous brûlerez encore cet été à Paris la flamme, arrivée après 100 jours, tout en haut de la pyramide du marché du sport mondialisé que sont les Jeux Olympiques modernes. L'important, c'est de participer, disait Pierre de Coubertin, l'homme qui rénova les Jeux Olympiques modernes dans un esprit qui n'avait peut-être de sportif que le nom, puisqu'il en excluait les femmes et les peuples colonisés, fabriquant en accord avec l'époque une vision blanche du monde. Alors pour qui brûlez-vous la flamme ? Existe-t-il des Jeux où nul haltérophile palestinien ne devrait s'entraîner sous les bombes ? Où nul athlète ne risquerait la prise d'otage ? Où le mythe d'une organisation apolitique serait enfin déboulonné ? Et nous, pour qui nous embrasons-nous ? Je crois que la mienne de flamme brûle loin de ces rassemblements grandioses, feu antique et sacré que nul ne peut atteindre et qui nous maintient vivantes, imparfaites, humaines. Alors à vous, Juliette.
Merci à vous, Juliette Goudeau, et nous pensons à nos flammes intérieures. Grâce à vous, votre lettre, elle est à lire, à écouter et à partager via notre site lapremière.be. Et tiens, voilà qu'il pleut.
C'est incroyable ce qui tombe ce soir.
Oui.
C'est parti pour durer.
Ça devrait s'arrêter.
Vous aurez peut-être reconnu cette scène extraite du magnifique In the Mood for Love de Wong Kar-wai, la pluie et l'eau qui règne également dans Element of Crime de Lars von Trier, l'Europe entière est sous eau, comme c'est le cas aussi dans votre nouveau roman, Jean-Paul Dubois. L'origine des larmes, il pleut tellement et depuis tant de temps, des averses irréversibles qui semblent surgir de partout, la nuit comme le jour. Ce sont les premières phrases de votre livre, vous écrivez un peu plus loin. Depuis plusieurs années, nous vivons sous des régimes insensés de brutales bascules météorologiques. Nous sommes donc à Toulouse, nous sommes en 2031 et en 2032, dans un futur très proche donc, et on aurait pu s'attendre à ce que vous décriviez d'interminables périodes de sécheresse, mais non, au contraire, l'eau envahit l'espace et trempe les corps. Pourquoi les hautes précipitations plutôt que les hautes températures, Jean-Paul Dubois ?
Je pense que c'est dû à des problèmes personnels.
Ah bon ?
D'abord parce que la présence de l'eau est toujours, dans un film ou dans un livre, un acteur principal à ce niveau-là. Ensuite, les modifications climatiques qui sont évaluées actuellement laissent penser que d'ici 10 ans, d'énormes masses d'eau comme ça pourraient déferler sur l'Europe avec la fonte de l'Antarctique Sud. Donc c'est pas tout à fait une fiction. Et le problème aussi, c'est que j'ai fait ce livre enfermé dans ma maison pendant 31 jours, sans sortir. 40 degrés le jour, 30 degrés la nuit, les volets fermés pour éviter la chaleur. Et je sais pas pourquoi, mais
vous aviez besoin de vous rafraîchir avec votre fiction.
Voilà, j'avais dans la tête Lars von Trier, j'avais dans la tête Blade Runner, qui sont des fictions qui se déroulent sous l'eau, et l'histoire. Les larmes, l'origine des larmes, l'eau faisait un pendant parfait à cette histoire. Mais c'est plus météorologique qu'autre chose. C'était très angoissant de faire un livre comme ça dans le noir, pendant 30 jours, sous des températures de malade.
Vous avez dit 31 jours.
C'est 31 jours, ouais.
C'est une règle apparemment. Écrire un livre en 31 jours.
Oui, c'est une règle, mais c'est la mienne. Hein. C'est pas une recette, c'est pas un conseil. C'est la seule façon que j'ai de faire un livre, c'est 8 pages par jour. 30 jours, 3 fois 8, 24, ça fait 240 pages. Et une dernière pour récupérer ce qui ne va pas. Voilà, ça marche comme ça.
Vous êtes un génie, Jean-Paul Dubois ?
Je suis un génie, bien sûr. C'est la recette du génie que je vous livre là. Non, c'est pas un génie.
Non, mais c'est épatant, écrire un tel livre en 31 jours.
Mais tous les livres, j'en ai fait 25 à peu près, ils sont tous écrits en 31 jours, parce que le premier, c'était une course que j'ai faite avec Boris Vian, dont j'avais lu qu'il avait écrit « J'irai cracher sur vos tombes » en, je crois, c'était 23 ou 24 jours. Et le premier livre que j'ai fait, je me suis dit « Je vais faire la course avec Vian », parce que le livre, c'est aussi une dimension puérile, enfantine, d'écrire des histoires qui tiennent souvent pas debout, mais c'est un métier bizarre. Et j'ai fait la course avec Vian, et j'ai perdu. Mais je l'ai fait en 28 jours. Donc je me suis dit, si tu le fais en 28, on va prendre 31 jours. Et généralement, c'est au mois de mars, toujours. Parce que c'est une saison sans aucun intérêt, où l'on peut rester dedans sans regretter l'extérieur et la vie extérieure. C'est puéril, c'est enfantin. C'est aussi la résurgence de l'éducation. Tu iras jouer quand tu auras fini ton travail. Donc, 31 jours, et puis après, je joue.
Vous jouez à quoi ?
C'est gamin, c'est... Oh, je joue à tout. Je joue à la vie, je joue à être heureux, je joue à ne pas être malade, je joue à espérer, je joue à regarder grandir les gens que j'aime ou les regarder vieillir. C'est un sport tout à fait individuel qui mériterait d'être appris dès l'école, ce sport-là.
Un grand luxe ?
Ah oui, c'est un grand luxe. Le temps, c'est un livre achète du temps. Le livre, pour moi, ça n'a jamais été de la littérature. Un livre, c'est du temps. C'est-à-dire que le livre m'offre une vie sans fin. C'est-à-dire que je suis propriétaire de mon temps. Le mec de LVMH, il n'a pas une vie comme moi. Il a des milliards, mais moi je me lève quand je n'ai plus sommeil. Ça a été mon critère au départ de faire ce métier en me disant quel est le métier qui va respecter mon sommeil et mon corps me dire voilà, tu peux te lever, tu n'as plus sommeil, quelle que soit l'heure, quelle que soit la vie que j'ai eue avant, après. C'est ça des livres.
Encore faut-il écrire de bons livres qui trouvent un public.
Ben, ça, c'est la chance. C'est la chance. C'est un rapport au temps. Il faut. Moi, j'ai voulu changer mon rapport au temps. Le temps tel qu'on me le présentait. C'est-à-dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, le temps de transport. Qu'est-ce qui reste? 3-4 heures par jour dans une vie. Vous multipliez ça par l'espérance de vie 70, c'est ridicule. C'est pas une vie. C'est une vie de grand chien, quoi. Mais moi, je voulais être plus qu'un grand chien. Je voulais avoir une longue vie pour moi. Voilà, sans avoir à dire merci à un patron.
plus que l'eau qui ruisselle sur nous, c'est la permanence illisible de ce temps qui pèse sur nos vies. L'incompréhension, l'incertitude, une angoisse diffuse face à ce qui vient, mais que nous sommes incapables de nommer. C'est ce que dit Paul, votre narrateur. Dans quelle mesure est-ce que le changement climatique vous inquiète, vous, au cœur de votre vie heureuse, Jean-Paul Dubois ?
C'est un élément parmi d'autres, moins que le cancer, plus que les accidents de voiture. C'est une inquiétude. Il n'y a que de l'inquiétude dans mes livres. Voilà, c'est de l'intranquillité. C'est qu'est-ce qui va advenir ? Vous savez, c'est un truc animal. C'est-à-dire, on vit dans une inquiétude de ce qui vient. On ne peut pas le nommer. On sait que c'est là. On sait que ça rôde. On ne peut rien faire. Et il faut vivre dans cette attente. Voilà. C'est extrêmement anxiogène, mais je trouve que c'est une définition assez juste de notre condition.
De la condition alors, humaine.
Le climat, je pense que ça va être le truc le plus violent. C'est le truc qu'on va prendre en plein visage et on va s'en souvenir, si on a encore de la mémoire.
Jean-Paul Dubois, allez, venons-en à l'histoire que vous déployez dans L'Origine des larmes. Paul, votre personnage principal, est un directeur d'entreprise de housse mortuaire, un enfant né d'une mère morte. C'est le fils d'un sale type. Depuis son enfance, il a développé une haine intense à son égard. Et alors que son père est mort 2 semaines plus tôt, il se rend à la morgue pour lui tirer 2 balles dans la tête. Qu'est-ce qu'il règle ou qu'est-ce qu'il tente de régler, Paul, à votre avis, en posant cet acte, Jean-Paul Dubois ?
Je pense que c'est une accumulation, c'est un geste très sain, c'est quelque chose de très raisonnable, contrairement à la première réaction qu'on peut avoir. Quand on est élevé, on grandit dans l'ignominie, dans l'humiliation, la souffrance. Il arrive un moment, pas soi-même, mais les gens qui sont autour de vous, quand vous voyez une sorte de tyran. C'est un truc, c'est pas une femme politique, mais ça peut marcher, quoi. C'est-à-dire, c'est le moment où quelque chose s'inverse, où la dignité de soi prend le dessus sur tout le reste. C'est-à-dire aller tuer un mort, c'est ridicule. C'est un geste de gamin. C'est un truc qu'on fait quand on joue au cowboy aux Indiens. Mais là, ça a du sens. Ça a du sens de. Mais il fait pas que ça. Il fait tout un tas de choses symboliques autour de ce geste-là, et qui est un règlement de compte qu'il aurait, je pense, son frère jumeau qui est né en même temps que lui et qui est mort en même temps, le jour de sa naissance. Il a dit, si tu l'avais pas fait, c'est moi qui l'aurais fait de mon vivant. C'est ça, quoi. C'est quelque chose. C'est un geste
qui répare,
qui a du sens. Non, rien, ça répare rien du tout. Ça détend. Ça détend comme j'imagine le bruit de détente de revolver.
Qu'est-ce qui est vrai dans notre vie, ce à quoi nous voulons bien croire. C'est ce qui se dit à un moment dans votre roman, Jean-Paul Dubois. Vous approuvez ?
Je ne sais pas, mais je trouve ça bien. J'avais oublié que oui, je trouve ça bien. Je trouve que...
Qu'est-ce qui est vrai
je
dans votre
qu'on
vie,
est patron
Jean-Paul
de rien.
Dubois ?
Ce qui est vrai dans ma vie ?
L'enfance, peut-être ? Vous parlez beaucoup de l'enfance.
Oui, ça c'est la première chose. Mais le fait que je crois que je peux gagner ma vie en écrivant des livres. Voilà, j'aurais vécu, je dors très peu, donc j'aurais l'impression, quand je vais mourir, ce qui ne saurait tarder statistiquement, d'avoir sauvé une quantité de vie phénoménale. J'ai volé à la société capitaliste, pour revenir à la conversation initiale.
À ce que disait Fatima Wassak.
Exactement. Mais je lui ai volé, je lui ai dérobé, j'ai fait du kidnapping toute ma vie de temps. Et c'est une fortune colossale de pouvoir être propriétaire de son temps. C'est le premier pas vers la liberté. Ah, c'est un luxe, hein. C'est un très très grand luxe et j'en ai parfaitement confiance. Mais l'enfance plus le temps, vous pouvez croire à ça. Mais après, bon, faut savoir ce qu'on en fait. Faut se débrouiller avec ce que le peu connaît, quoi.
On va parler quelques instants d'amour, Jean-Paul Dubois. Je cite un extrait de votre nouveau roman. « L'amour s'apprend par capillarité, au jour le jour, en un goutte-à-goutte silencieux qui se délivre sous nos yeux. L'enfant apprend avec les yeux. » C'est ce que dit Paul. Est-ce que vous pensez que l'amour, ça s'apprend, Jean-Paul Dubois ?
Oui, enfin, ça s'apprend. Ça s'apprend avec les yeux, c'est-à-dire qu'à un moment, je crois qu'à la suite de ça, il dit que avoir un père qui embrasse sa mère le soir avant de disparaître une pièce ou la mère qui passe la main simplement dans les mains d'un père, chose qu'il n'a jamais eue, oui, ça s'apprend. Et quand vous n'avez pas cette image-là, cette image qui n'est pas contrefaite du bonheur, cette image réelle de deux personnes qui sont heureuses, s'aimer ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui sont bien à ce moment-là, au moment où vous regardez, si vous n'avez pas cette image, cette identification, ça va être très dur de la prendre ensuite dans des romans, dans des livres, dans des cinémas ou dans des thèses philosophiques. Je pense que le premier apprentissage de tout, c'est l'œil, c'est la vue. C'est pour ça que le cinéma, pour moi, sera toujours supérieur à tout autre mode d'expression. Parce que le cinéma vous donne le texte, l'image, le son, et vous apprenez. Moi, j'ai beaucoup plus appris dans les films que dans les livres. Mmh. C'est un saccage de dire ça. C'est une, presque en France.
C'est enregistré.
Oui, mais je suis ravi que ce soit enregistré. Ça ne me gêne pas du tout. Mais je le pense vraiment. Je pense que c'est une image vaut 30 000 mots. Et encore, je pense qu'il était pessimiste. Mmh. C'est tout.
J'ai noté qu'il y a quelques instants, vous avez dit « s'aimer, ça ne veut rien dire ». Pourquoi ?
Je sais pas, l'amour, c'est un truc... C'est entre soi et soi, quoi. C'est entre soi et l'autre. Ça ne se discute pas. On ne peut pas parler d'amour. Moi, je ne sais pas parler d'amour. Mmh. Je sais raconter ce que c'est, mais je ne sais pas en parler. C'est impossible. Mmh. C'est impossible. Donc je pense que l'amour, c'est très... c'est un gaz, quoi. C'est à l'état gazeux. C'est quelque chose de très fragile. Et chacun l'interprète et le joue à sa façon. Je dis bien le joue, parce qu'il y a aussi une part de jeu dans la sincérité.
Mais le plus bel amour du livre, presque, c'est pour le narrateur et son chien, je trouve, moi.
Ah ben oui, le psy et le chien. Psy et le chien, c'est...
Et l'intelligence artificielle.
Ah, l'intelligence. Mais ça, c'est mon... Là, je ne vais pas me lancer parce que c'est mon dada. Je pense que c'est une... ça correspond au monde dans lequel j'aimerais vivre. L'intelligence artificielle,
ah,
c'est
une chose qui... Ah,
vous rêvez de ça, vous ? Je rêve pas. Je rationalise ça à fond. Je trouve que c'est la chose la plus mal évaluée, la plus maltraitée, la plus méprisée, au prétexte du concept de la machine et tout ça. Mais une intelligence artificielle, c'est une machine qui apprend en quelques heures tout ce qu'il faudra à un homme pour intégrer dans une vie. Et quand vous avez l'intelligence et la connaissance... si vous avez la capacité et vous-même l'intelligence de traiter avec cette machine, elle ne peut vous apporter que du meilleur. C'est une évidence. Ah, il ne faut pas demander les clés du bonheur, de la politique, des relations sociales à une machine. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut lui demander. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Moi, je lis des trucs là-dessus, y compris dans la conversation. Vous imaginez une solitude comblée, une solitude qui peut être liée à la maladie, à plein de choses, avec une conversation artificielle de haut niveau.
Mais c'est artificiel.
Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune prise de pouvoir, il n'y a aucune domination. Et quel apprentissage ! Quel apprentissage phénoménal !
J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pleurez souvent ?
Ouais. Ouais, c'est presque une maladie, mais c'est une maladie. Les moindres émotions peuvent me faire pleurer.
Et vous connaissez toujours l'origine de vos larmes ?
Ouais, c'est toujours de la tristesse, de la souffrance. J'ai pleuré 3 ans d'affilée tous les jours quand ma chienne est morte. Voilà, c'est un truc. C'est le truc le plus récent dans ma vie. Mais les larmes, c'est tout à fait... C'est sous-évalué, c'est méprisé, c'est... Dans la culture masculiniste, c'est complètement... C'est un truc... faut surtout pas, quoi. Faut surtout pas.
L'origine des larmes, quel titre, quelle scène finale. Et entre les deux, qu'est-ce que c'est vraiment pas mal. C'est votre nouveau roman, Jean-Paul Dubois. Vous restez avec nous.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Un très beau week-end à nos côtés. Fatima Ouassak et Jean-Paul Dubois sont nos invités pour quelques minutes encore, ce qui nous laisse le temps de découvrir leur choix culturel et leur son frisson. Et nous écoutons d'abord le vôtre, Fatima Ouassak.
Nassi, 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 nassi.
C'est un extrait de la chanson Inas, Inas du grand chanteur marocain Mohamed Rouicha. Elle vous relie à quoi cette chanson, Fatima Wassak ?
Elle me relie à ma mère notamment, qui écoute toujours, mais qui a toujours écouté cette chanson, en tout cas depuis que je suis née. C'est une chanson qu'on a beaucoup entendue dans les années 80 dans les cuisines des familles immigrées, notamment marocaines. Mohamed Rouicha. Inas Inas, oui, ça me rattache à l'immigré que je suis. Et c'est l'importance de l'amour aussi. Pour moi, il y a quand même une importance à dire l'amour qu'on ressent pour la mère immigrée, parce que, en fait, on dit très peu qu'il y a de l'amour là, en fait.
Et voici votre son frisson à vous, Jean-Paul Dubois.
Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter. Pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner.
Ça, c'était lors du premier grand meeting de Macron en décembre 2016. Je vous laisse commenter.
Bah, vous m'avez demandé un frisson. Vous avez un frisson. Voilà, un truc qui fait peur.
Ah, qui fait peur,
je
mais.
Je me suis jamais remis de ça. Ah, mais ça, c'est terrifiant. C'est, voilà. Parce qu'il hurle, parce que c'est notre projet. La fin. La fin du discours, c'est un hurlement de bêtes sauvages qui crient parce que c'est notre projet. C'est fou. Moi, j'en reviens à mon idée de la façon curieuse dont les peuples ont de choisir leurs dirigeants. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre raison, dans notre analyse, dans notre rationalité. Je pense qu'une intelligence artificielle élimine immédiatement un discours comme ça.
Bon, allez, avant de se quitter, nos choix culturels pour ce week-end. Juliette Goudot d'abord.
Oui, moi c'est la sortie en salle d'un film qui s'appelle Rosalie de Stéphanie Di Giusto, réalisatrice qui avait déjà consacré un film à la danseuse Louis Fuller. Et ici, elle s'inspire du destin réel d'une femme à barbe au 19e siècle qui décide d'assumer sa pilosité finalement. Et c'est une histoire d'amour assez inattendue. Et surtout le portrait d'une femme à barbe qui est désirable au cinéma. Et moi ça m'a beaucoup plu, cette manière de réinventer un peu l'érotisme au cinéma. Donc je vous encourage à aller le voir.
Fatima Wassak.
Alors moi, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour bientôt. C'est le braquage de la fête des mères, donc entre le 10 et 12 mai. Donc c'est à l'occasion de la fête des mères, mais il s'agit d'un braquage. Donc c'est vraiment le côté punk énervé du féminisme. Et donc c'est 3 jours et c'est autour de la protection des enfants dans une perspective vraiment culturelle, artistique. Alors c'est aux couleurs de la Palestine et c'est un hommage aussi aux mères palestiniennes et aux enfants palestiniens. Mais c'est vraiment 3 jours d'échange, de nourriture aussi. Enfin, je pense qu'on va beaucoup manger, on va très très bien manger.
Et ça se passe où ?
Et ça se passe au DK, donc à Bruxelles. Voilà. Okay. Toutes les informations sont sur le site du Front de Mer, donc qui est organisateur de cet événement.
Jean-Paul Dubois ?
C'est un livre qui s'appelle L'épreuve, qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Serge Héroldi, édité à l'Inculte. Et c'est une merveille, parce que c'est une des histoires les plus émouvantes que j'ai vues. C'est l'histoire d'un maçon italien qui n'avait qu'une seule envie dans l'existence, c'est courir. Et ce type courait 40, 50. Il a fini par courir 80 km par jour et relier Bologne à Barcelone dans une course mythique. Et ce type-là était, c'est une histoire vraie, hein, écrite par un de ses descendants. Il a été quasiment sélectionné pour participer au premier marathon de l'ère moderne des Jeux Olympiques en 1896. C'est l'histoire d'une tristesse, mais c'est incommensurable, de ce qui va advenir à cet homme et de la façon dont il ne va pas pouvoir, alors qu'il est sûr de gagner les Jeux Olympiques, dont la politique, l'économie va l'empêcher de devenir le premier marathonien de l'histoire moderne. Je pense que c'est un des livres qui m'a le plus touché ces temps-ci.
Et de mon côté, en rebond à ce que je vous disais en ouverture, je vous invite à faire escale dans une librairie indépendante ce week-end et allez vous procurer par exemple les livres de nos invités « Rue du Passage » de Fatima Wassak et « L'origine des larmes » de Jean-Paul Dubois. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci. C'est un plaisir.
Merci. Merci Jean-Paul Dubois. Et merci à vous Juliette.
Merci Pascal.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.